Bonsoir. Émission Vendémiaire de ce soir. Donc, je reçois Pascal Dereux. Un coup de cœur pour un livre, pour une littérature, pas si souvent que ça arrive. L'auteur avec nous ce soir, Pascal Dereux, est peut-être passablement inconnu, mais il a publié il y a quelques années un recueil de nouvelles sous le titre « Chemin des fins ». La lecture de ces nouvelles me fut un tel choc que j'ai eu aussitôt envie de l'inviter pour qu'il vous fasse découvrir quelques-unes de ces nouvelles en les disant en direct à l'antenne, et il a bien voulu accepter ce projet. Ainsi, nous commençons cette année vendémiaire de 2014 en sa compagnie. Je vous dirai également qu'il est aussi un militant pacifiste et un homme de radio et de théâtre, mais je vais lui donner la parole pour qu'il se présente à son idée un peu plus amplement avant que nous en venions à parler de son ouvrage et à l'entendre nous faire une lecture de certains extraits. Pascal, bonsoir.
Bonsoir.
Donc, merci de ta venue. Donc, tu as entendu tout ce que j'ai dit déjà sur toi. Peut-être pour nos auditeurs, tu as envie de te situer un petit peu mieux et différemment.
Bah écoute, déjà, je veux te remercier de m'avoir invité. Ça me fait très plaisir d'être sur Radio Canu, que j'avais eu l'occasion de nombreuses fois d'écouter, mais pas encore de découvrir. Donc pour moi, c'est un grand plaisir. Tu as dit des choses qui sont très, très élogieuses. On me voit pas là, mais je suis tout rouge. Et je cherche à me cacher sous la table.
C'est l'avantage de la radio.
Mais écoute, les nouvelles du recueil Chemin des fins ont été publiées en 2006. Ce sont des nouvelles qui ont été écrites non pas d'un bloc, mais sur plusieurs années. Il y a eu pas mal de périples avant d'arriver à la version éditée. C'est un recueil dont certaines nouvelles ont été écrites en parallèle, effectivement, de j'animais un groupe théâtral qui s'appelait Les Pieds sur Scène. Petit jeu de mots entre la scène et la scène, puisque je suis un ex-parisien, ce qui se sentira certainement dans certaines des nouvelles. C'est un recueil qui est le premier livre de ma part édité, qui va être suivi par d'autres, prochainement une pièce de théâtre, et puis j'espère d'autres publications, puisque si le désir premier, c'est le désir d'écrire qui m'anime, il va de soi qu'à partir du moment où on recherche édition, c'est qu'on est animé aussi par le désir de partager et d'être lu. Donc ça me touche tout particulièrement ce que tu as dit, puisque on a rarement l'occasion quand même, en tant qu'auteur, d'avoir des retours de ses lecteurs. Et c'est pour ça qu'on va jusqu'à la démarche de l'édition. C'est pour le partage avant tout. Donc le partage d'émotions et puis aussi d'expériences.
Mais avant d'avoir écrit cet ouvrage, tu as fait quoi dans la vie un petit peu?
J'ai fait un parcours, à l'époque où j'ai écrit « Chemin des fins », je travaillais encore comme ouvrier jardinier dans les jardins parisiens. J'ai un parcours multiple, on va dire. L'écriture a toujours été présente dans ma vie. Le théâtre est venu ultérieurement, mais j'ai une formation professionnelle de comédien, ce qui m'a amené donc à animer mon propre groupe de théâtre, qui était un groupe qui se caractérisait par la volonté d'être ce que j'appelle du théâtre de proximité, c'est-à-dire que nous jouions exclusivement dans les bars, les jardins, les librairies, les appartements, là où on nous invitait, et même parfois dans des théâtres. Y compris aussi dans la rue, bien évidemment, sur des places, enfin partout, tous les endroits qui pouvaient l'espace d'un instant devenir un espace d'expression, avec comme but d'apporter le théâtre à des gens qui pensaient qu'il n'était pas pour eux, qu'il était réservé déjà à des lieux où il faut payer pour entrer, donc où il faut avoir il faut pouvoir payer le billet d'entrée, et qui pensent que le théâtre n'est plus, ne peut plus être populaire. Donc le pari, c'était de dire ce qu'on va faire, on va le rendre accessible au plus grand nombre, et on aura réussi notre coup si des gens découvrent qu'en fait ils aiment peut-être le théâtre, qu'ils ne le savaient pas.
Ce que tu appelles le théâtre, là, c'est pas la gîte propre, c'est pas de l'improvisation, c'est des choses écrites que vous présentiez au public.
Oui, c'est-à-dire que par contre, il y avait un véritable objectif qui était de dire, en même temps, on va faire découvrir des auteurs, si possible, des auteurs contemporains vivants. Donc, la plupart des spectacles, en fait, étaient créés sur des principes avec un thème central, de succession de scènes d'auteurs différents, dont certaines écrites quelques fois par mois. J'ai même écrit 3 spectacles entièrement pour les pieds sur scène. Mais on avait aussi nos chemins personnels dans le groupe théâtral. Donc il y avait des gens, il y avait une danseuse, il y avait une marionnettiste, donc on a fait aussi des fois de la marionnette. Donc il y avait des choses qui pouvaient être très improvisées, mais il y avait quand même le principe de dire c'est du théâtre, c'est-à-dire des textes qui sont écrits, qui sont appris, qui sont travaillés en amont. On prenait au moins 6 mois. Le principe, c'était 2 spectacles par an. Donc ça voulait dire 6 mois de travail où on se voit régulièrement. Et on travaille les personnages avec des techniques théâtrales professionnelles. Et après, on vient présenter une section de scènes, mais qui se fondent dans leur succession. Hein. C'est pas simplement énumérer des scènes, c'est vraiment en faire un spectacle cohérent pour emporter les gens qui étaient là ou qui décidaient de rester avec nous sur un thème qui pouvait être, le tout premier a été première rencontre, alors ça pouvait balayer très large, jusqu'à des spectacles, par exemple, on va dire engagés, au sens où on a eu des spectacles qui étaient des spectacles pacifistes et antimilitaristes. Entre autres, tout de suite après le 11 septembre 2001, on a écrit, pour le coup j'ai écrit et travaillé avec le groupe théâtral, un spectacle qui s'appelait « Que maudites soient les guerres » et que nous avons joué et qui avait pour but de dire qu'il y avait un autre regard sur l'actualité qu'on nous vend, ce côté fataliste face à la guerre, de dire que nous on était contre et de faire entendre des voix de personnes qui s'élevaient ou qui s'étaient élevées contre la fatalité des guerres.
Et cette expérience théâtrale, enfin cette pratique théâtrale, maintenant que tu es lyonnais, elle se poursuit ou elle est entre parenthèses ?
Pour l'instant, la pratique théâtrale, pour moi, est entre parenthèses depuis 2005, où j'ai considéré que l'aventure des pieds sur scène était terminée. C'est-à-dire que nous étions arrivés au bout de l'aventure de ce groupe. Et j'ai considéré, et je trouve très souvent, malheureusement, on va jusque-là pour arrêter les choses. On tire dessus comme sur une bobine qui est finie, puis on effiloche, on abîme, et puis ça se casse. Donc moi, j'ai refusé ça, et à un moment donné, j'ai choisi de mettre fin à cette aventure en considérant que si une nouvelle aventure théâtrale devait avoir lieu, eh bien, ce serait avec un nouveau groupe, ce serait peut-être tout seul. En tout cas, ce serait dû à des rencontres et que ce serait pas vouloir absolument faire survivre quelque chose qui, en fait, avait déjà vécu. Même si, bien évidemment, c'est toujours difficile de mettre fin à une histoire. Hein.
Voilà. Ben après,
je suis plus concentré sur l'écriture. Pour revenir aux nouvelles, effectivement sur l'écriture.
Donc Chemin des fins, bon, c'est pas, il y a moins de pages que dans Marcel Proust. Hein, c'est une petite centaine de pages, mais vous allez voir qu'elles sont belles et denses, quoi. Donc cet ouvrage, tu l'as fait en 2006, je crois. Hein, il a été.
Oui, il a été publié en 2006 par les éditions Bérénice.
Voilà. Donc, dans un contexte un peu sans doute particulier, je t'en demanderai pas plus là-dessus, mais je vais quand même dire à nos auditeurs la dédicace que tu as mis à cet ouvrage, parce que, comme je te l'ai déjà dit, elle, à mon sens, elle surdétermine un petit peu tout près quasiment tous les textes qui figurent dans l'ouvrage. C'est à ma compagne Cécile, dont le chemin prit fin un triste matin du mois d'août, enfin d'août exactement. Voilà, donc une ouverture à la première page de ces livres. Après, il y a une préface, et cette préface est écrite par toi-même, Poissy, septembre 2004. Je te propose de la faire découvrir à nos auditeurs.
Chemin des fins, c'est le nom d'une rue à Annecy. Je ne sais plus très bien où exactement. Une rue comme beaucoup d'autres, avec un début et une fin. Pourquoi ce pluriel alors? Une rue, n'importe laquelle, pouvait-elle avoir plusieurs issues, excluant d'office l'impasse? Se pouvait-il qu'en la remontant, le début devienne une seconde fin, ce qui n'impliquerait pas pour autant une seconde chance, un nouveau début, mais peut-être bien une continuité? Au bout du chemin, il est vrai, on en trouve souvent un autre, voire plusieurs, qui nous oblige à faire des choix. Ces choix qui jalonnent notre vie et nous donnent par là même l'illusion d'en être le maître. Douce impression de liberté quand au contraire, cette succession de rues, de chemins et de routes ne semble pas être autre chose qu'un labyrinthe où l'on ne peut que se perdre en attendant que la mort nous en dévoile l'issue. Un parcours fait de bosses, de creux, d'ornières, un peu comme nos peines et nos joies, surgissant au détour d'un numéro, de l'ombre d'une porte cochère, grinçant parfois comme la grille d'un vieux jardin abandonné. Chemin des fins, c'est brutal, comme un point d'exclamation, une lettre de renvoi, un lapin, une place de cinéma restée vide à côté de soi. Cette route qu'on suivait tranquille, chemin faisant, qu'on explorait comme une pochette surprise et qui se heurte soudain, sans panneau pour crier gare, à un lit d'hôpital. Je ne pensais pas y retourner un jour sans toi. Combien de ces hôtels ont connu nos fins de nuit, le lit en pagaille, les corps en désordre, les cœurs triomphants de notre amour sans fin. Chemin des fins. Il m'est parfois arrivé de penser qu'il s'agissait de toutes ces vies s'abritant derrière les numéros de cette rue, derrière les fenêtres où séchait le linge familial, les balcons où étaient stockés les vélos, derrière ces vitres où se reflétaient les Alpes, toutes ces vies uniques allant vers leur fin commune, inéluctable. Chemin des fins, ce pourrait tout aussi bien être ma rue ici, à Paris, ce port du bout du monde, sans début et sans fin où tant d'âmes perdues errent après un semblant de solution à leur misère, à l'exil, à la peur, à l'amour. Oui, ce pourrait être ici, où la fin s'affirme sous une multitude de masques, une infinité de vies. Ce pourrait être ici aussi, en acceptant les Alpes, l'air pur et le lac. Annecy. J'y suis retourné pour arpenter ce chemin, décidé à aller jusqu'au bout de sa plus lointaine extrémité. Sur chaque numéro, j'ai collé une petite histoire d'ici ou d'ailleurs, de chez moi. Des tranches de vie, de gens pris entre le début et la fin, comme vous et moi. Au détour d'un immeuble, d'un palier, j'ai découvert qu'une fin n'était pas toujours négative, qu'elle peut être libératrice et même la bienvenue. Au point final, la vie préfère souvent les points de suspension. Cela m'a donné le courage de continuer sans craindre la passe ni la feuille blanche. Chemin des fins, cela me revient. C'est du côté de la gare, il me semble, vers le quartier des Romains. Rome qui trouva, il me semble, une drôle de chute.
La couverture pour mon père.
Claude est arrivé dans notre équipe en automne, il y a un peu plus d'un an. Il avait passé la quarantaine, grand, mince, la poignée de main franche. On s'est tout de suite bien entendu. Il venait d'une boîte spécialisée dans la couverture. Pas comme nous autres qui œuvrons dans toutes les corporations du bâtiment. J'appréciais sa discrétion. Il parlait peu. Ne disait jamais de mal d'un collègue ou d'un commis. Il avait un esprit de classe, c'est-à-dire qu'il pouvait défendre un collègue devant l'ingénieur, même s'il ne l'aimait pas. c'était surtout un excellent ouvrier. Il avait 24 ans de métier derrière lui quand il nous a rejoints. Je suis chef de chantier. Il était sous mes ordres, mais il connaissait le métier mieux que moi. Il m'a appris plein de trucs. Ces petites astuces qui font la différence entre un bon et un très bon. Il aimait son métier, même s'il n'arrêtait pas de cracher dessus et de souhaiter pour son fils un autre boulot. Il avait un gosse de 16 ans et une gamine de 12. Fallait le voir se déplacer avec aisance sur les toits bien pentus. Il savait exactement où poser les pieds. Le midi, il ne redescendait pas pour manger, il préférait rester là-haut. D'ici, on ne voit pas la laideur des faubourgs, il disait. Bien sûr, quand il pleuvait, il nous rejoignait. Faut vous dire, dans ce métier, on se change et on mange à la gamelle, dans les caves ou les combles. Tenez, vous ne me croirez pas si je vous dis que sur le chantier, en ce moment, les gars sont obligés d'accrocher leurs sacs à des clous plantés dans le plafond pour que les rats ne bouffent pas leur cantine durant la matinée. C'est comme ça. Et on nous gave avec le 21e siècle. Dehors sans cesse, quel que soit le temps, sauf le verglas et la neige, bien sûr. Vous gelez en hiver, et en été, les toits deviennent de vraies plaques chauffantes sur lesquelles vous cuisez doucement. Je vous laisse croire que la retraite est la bienvenue, même si au niveau fric, elle n'est pas lourde. Enfin, pour en revenir à Claude, il avait perdu son emploi. La boîte avait déposé le bilan 5 ans auparavant. Une histoire pas claire. Claude croyait à une magouille. L'entreprise venait de décrocher la rénovation de l'aile droite du château de Versailles. Vous vous rendez compte? Pour Claude, les patrons s'étaient barrés avec la caisse et avaient suffisamment arrosé les commis pour qu'ils la bouclent. Les autres, les ouvriers et les bureaux, étaient bons pour la NPE et recommençaient à zéro. Pour lui, justement, ça avait été la galère. Avec 1300 euros de salaire, ça va pas chercher loin les indemnités. Et puis ça dure pas longtemps. Il était trop compétent, trop qualifié, et puis plus tout jeune. Il avait bien trouvé une place, mais au bout de 6 mois, l'entreprise l'a largué. Trop cher. Vous vous rendez compte? Ce mec savait tout faire. Le zinc, le plomb, l'ardoise, la tuile. Il n'y a que le chaume qu'il n'avait pas pratiqué. Il avait parcouru tout Paris. La capitale, il la connaissait par le haut et par les monuments. Faut vous dire, il avait travaillé sur tous les toits prestigieux. Louvre, Invalides, Trocadéro, Tuileries, le Muséum. Tous, je vous dis. Il méritait le même respect qu'un compagnon du devoir. Alors, cette place dans mon équipe, c'était beaucoup pour lui. Il était payé au rabais et on lui demandait un travail de tâcheron. Bosser vite et pas cher, avec des matériaux de merde, si vous voulez comprendre. Mais ce boulot, il en avait besoin, vraiment. Le chômage était en train de foutre son couple en l'air. Et puis, il avait honte de voir ses gamins se lever pour aller au collège, tandis que lui, il restait là. Il continuait de se lever à 6 heures, de prendre son café, mais il n'osait plus regarder ses gosses en face. Je ne sais pas si vous pouvez comprendre, nous autres, nous n'avons que notre travail. Claude, tout le monde le respectait. Je ne dis pas que tout le monde l'aimait, attention, hein. Il était exigeant. On prenait le café ensemble pour commencer la journée. En hiver, je rajoute toujours un petit calva. Mais lui ne buvait jamais d'alcool. Un verre de rouge le soir avec ma femme, qu'il m'avait un jour confié, et un verre de champagne pour les grandes occasions. Vous savez, je l'aimais beaucoup. Il venait des fois manger à la maison. Pour tout vous dire, je voulais lui demander d'être le parrain de ma petite dernière, Lucie. Je vous ennuie avec mes histoires. La dernière fois où je l'ai vu, c'était lundi matin. Il n'était pas au café. Un garçon couvreur m'a dit qu'il était monté. En fait, je ne l'ai pas revu. Le temps que je le rejoigne sur l'échafaudage, il était déjà tombé. Ne me demandez pas s'il s'agit d'un suicide ou d'un accident, monsieur. Mais laissez-moi vous dire ceci. On n'annonce pas à un homme qu'il est renvoyé à la fin du chantier avant de le laisser monter sur un toit pour y travailler.
Thank you.
Nocturne.
Carole tourna le coin de la rue et engagea sa voiture dans l'accès au parking de l'hôpital. Dans sa guérite, Jeannot, le gardien de nuit, était à peine visible tant la pluie ruisselait sur la vitre. Il lui adressa un petit signe en actionnant la barrière. Elle lui répondit d'un large sourire. Après s'être garée, elle ouvrit sa portière, saisit son sac et traversa en courant la petite allée qui la séparait du bâtiment principal. Après s'être signalée à l'accueil, elle gagna le deuxième étage où se trouvait le service de gérontologie. En sortant de l'ascenseur, elle croisa Marie-Claude qui partait et trouva Suzy en train de classer des feuilles de soins. Elle s'embrasse. « Alors, te voilà enfin ? Je commençais à râler. » Il tombe des cordes, j'ai dû rouler au pas. Et puis, tu sais comment ça se passe. Plus il fait mauvais, et plus ils conduisent comme des cons. Tu as plutôt intérêt à faire gaffe. Bon, ce n'est pas grave de toute façon. Je t'ai laissé les indications pour la nuit. Rien de spécial à part un changement de médicament pour la 216. Elle enfile son manteau. Ah si, dis à la 208 de baisser le son de sa télé. On a une nouvelle patiente à côté d'elle qui a besoin de dormir. Allez, je me sauve. Bon courage. Carole se changea et prit connaissance des notes de l'équipe de jour. Sa collègue, Thérèse, arriva et la nuit commença pour les deux infirmières. D'abord, faire le tour des chambres, s'assurer que tout va bien, administrer les soins, distribuer les médicaments, quelques somnifères. Ainsi, les patients du service pouvaient-ils être ensuite tranquilles pour manger le plateau repas qu'on leur avait apporté pendant ce temps. Puis, le silence enveloppait petit à petit les couloirs froids baignés du halo triste des néons. Seuls les cliquetis des chariots manipulés par les aides-soignantes et les discussions à voix basse du personnel éveillaient alors un semblant de vie. Au loin, dans la rue, le passage bruyant d'une mobylette, un klaxon impatient. Vers 10 heures, il fallait changer les couches des vieilles personnes et vérifier les perfusions de glucose. Enfin, à minuit, assurer la garde, se tenir prêt pour celui ou celle qui aurait besoin d'elle. Carole enfonça une touche sur l'interphone. Après un grésillement, une voix d'homme se fit entendre. Celle de Martial, l'interne de garde. « Alors, ça y est ? Vos petits vieux sont langés et couchés ? Tout se passe bien ? » ?»« Tout va bien pour le moment. Je fais une pause. Tu viens me rejoindre à la machine à café ?» Je finis de rentrer un dossier sur l'ordinateur et j'arrive. Martial et Carole s'étaient liés d'amitié 3 mois auparavant. Ils n'avaient été avant que de simples collègues. Ce jour-là, Carole était arrivée plus tôt. Au lieu de passer par l'accueil, elle avait pris les escaliers de secours pour se rendre directement auprès d'un de ses patients. C'était un vieux monsieur pour qui elle nourrissait une très grande tendresse, probablement parce qu'il lui rappelait son grand-père mort 10 ans plus tôt. Il lui avait prêté un livre, elle voulait le lui rendre. Elle avait pénétré joyeusement dans sa chambre pour la trouver déserte, le lit refait. Le vieil homme était décédé au cours de la journée. Carole s'était retrouvée en train de pleurer dans le couloir, le livre à la main. Martial arrivait pour prendre son service et l'avait trouvée là. Sans un mot, il l'avait prise dans ses bras et l'avait entraînée doucement vers la cafétéria. Elle lui avait confié son affection pour le vieillard. Tu comprends, je m'attache aux gens. Je n'arrive pas à les soigner tous les jours en restant réellement distante. J'oublie que dans ce service, un décès est tous les jours possible. On m'en a souvent fait le reproche. Mes parents, mes amis, mes collègues aussi bien. Je n'y arrive pas. C'est en moi. C'est ma nature. La même nature qui m'a amené à vouloir faire ce métier. Martial souriait en l'écoutant, puis lui avait raconté une histoire. L'année dernière, nous avions un patient en phase terminale d'un cancer. Personne ne voulait lui dire qu'il allait mourir, qu'il ne quitterait jamais cet établissement. Moi, je devinais qu'il savait, qu'il avait compris et attendait qu'on lui dise clairement. Peut-être pour aborder lui-même sa fin prochaine, se préparer. Ça me rendait dingue. Tout le monde me disait de me taire, de me calmer. Ce n'est pas à toi de prendre cette responsabilité, c'est le rôle des toubibs. Tu t'imagines qu'il veut savoir, mais il t'en voudra si tu lui dis. Je ne savais plus quoi faire. Et puis un soir, je me suis dit, si je devais mourir bientôt, je voudrais bien ne pas être le dernier au courant. J'ai été parler au monsieur. Il espérait ma visite. Je l'ai vu tout de suite. Il m'a regardé, il m'a écouté, et puis il a reporté son regard sur le mur. Ses yeux se sont mouillés, sa poitrine s'est soulevée, il a laissé échapper un long et douloureux soupir. Il a pris ma main, esquissé un sourire et murmuré « Merci, merci beaucoup. Maintenant, je voudrais être seul. » Je te jure qu'il était apaisé. Cette nuit-là, il a dormi comme jamais depuis son arrivée dans le service. Tu es comme tu es, Carole. Ta sensibilité est une qualité. Bien sûr, notre métier exige que nous nous protégions, mais pas pour devenir froid ou dur. Soyons nous-mêmes, c'est déjà bien assez difficile. Il avait effleuré sa joue d'un geste apaisant avant de l'accompagner reprendre son service. Depuis, ils prenaient régulièrement leur pause ensemble. Ce soir-là, après avoir quitté Martial, Carole fit le tour de l'étage pour s'assurer que tout allait bien. Puis elle se rendit chambre 207 tenir compagnie à Madame Perriot. La vieille dame de 92 ans ne dort plus la nuit. Alors, dans la mesure où son travail le lui permet, Carole passe discuter avec elle. La vieille dame tourna la tête vers elle pour l'accueillir dans la chambre. La tristesse de son regard profond et sombre contrastait avec l'éclat et la douceur de son sourire. Elle était dans l'établissement avant même l'arrivée de l'infirmière 2 ans auparavant. Elle faisait partie de ses patients en longue durée, ceux qui ne quitteraient jamais l'établissement public. Elle avait été l'épouse d'un universitaire, brillant professeur, spécialiste de l'Europe centrale au XIXe siècle, décédé 30 ans auparavant. Elle parlait toujours avec amour et respect de cet homme dont elle disait « C'est le seul dont le regard, en se posant sur moi, me rendait belle à mes propres yeux. Jamais il ne m'a diminué ou limité à être sa femme. Nous avons été des amants, des amis, et les voyageurs d'une même caravane. » Carole l'écoutait avec plaisir et reconnaissance, car les propos de la vieille dame n'étaient jamais anodins ou quelconques. Les plus innocents étaient une marque d'intérêt. Elle remarquait une nouvelle coupe de cheveux, un nouveau bijou, mais aussi un regard soucieux dissimulé derrière des attitudes professionnelles. Elle avait aidé Carole 1 an et demi plus tôt, quand son compagnon était parti. À l'époque, elle était de service de jour. En rentrant du travail, un soir, elle avait trouvé l'appartement qu'il partageait depuis 6 ans, vide. Il était parti sans aucune explication, sans aucune lettre. Aucune dispute ni désaccord n'avait précédé cette séparation. Elle n'avait plus jamais eu de nouvelles, ses beaux-parents non plus. Cela avait été une déchirure d'une cruauté, d'une souffrance jusque-là inconnue et qui semblait ne pas pouvoir se refermer. Aujourd'hui encore, elle ne pouvait passer une semaine sans pleurer. C'est ce qui était arrivé en présence de Madame Perriot, alors qu'elle lui faisait une prise de sang. La vieille dame avait alors pris sa main et l'avait pressée doucement. « Allons, jeune fille, dites-moi ce qui vous fait souffrir ainsi. » Carole trouva la force d'étiqueter et de ranger le petit tube à bouchon rouge avant de s'asseoir, pleurant de plus belle. Entre sanglots et hoquets, elle s'était confiée en ne cessant de s'excuser. Madame Perriot l'avait écoutée et puis lui avait parlé ainsi. « Pleure, et puis passe à autre chose. Aucun homme ne mérite qu'on ait mal trop longtemps pour lui. C'est déjà bien assez de les mettre au monde. Crois-moi, la plupart n'aiment pas la femme avec qui ils sont, mais celle d'avant ou celle d'après. Ils sont incapables de se retrouver en eux-mêmes, alors ils se cherchent sans cesse en nous. Va. Tu es charmante et cultivée. Tu fais un travail remarquable. Tu es jeune. À vrai dire, une femme est éternellement jeune si on la compare aux hommes qui sont presque tous vus avant l'âge. Reprends-toi toute belle et oublie celui-là. Il y en a d'autres et parmi eux un meilleur que les autres pour qui ça vaudra la peine que tu te battes, un qui te rendra unique et qui le deviendra à tes yeux. Alors là, fonce ! Carole n'était pas sûre de partager la vie de Madame Puriot, mais après la disparition cruelle de son amie, elle voulait bien haïr l'ensemble des hommes tout en conservant l'espoir d'en trouver un qui vaille la peine. Elle était toutefois reconnaissante envers cette patiente qui prenait le temps de l'écouter et lui témoignait de la compassion. À la suite de ces événements, Carole avait choisi le service de nuit. Madame Puriot s'était montrée enchantée de cette décision, les nuits étant à mon âge bien plus pénibles que les journées. Il y avait peu, elle avait demandé à l'infirmière de lui faire un peu de lecture. L'aide-malade qui vient de temps en temps me visiter est très gentille, mais elle n'entend rien à la musique des mots. Toi, tu as du cœur, tu dois lire adorablement. Elles avaient commencé ensemble Guerre et paix de Tolstoï. Quand cela était nécessaire, la vieille dame lui donnait des indications. Plus lentement, prends le temps de respirer, respecte la ponctuation et tu verras que le rythme viendra tout seul, comme le grand auteur l'a senti. Carole s'était surprise à aimer lire, jusqu'au plaisir du papier sous ses doigts. Madame Puriot et elle n'échangeaient plus autrement qu'à travers la lecture, les bras le long du corps, par-dessus le drap blanc, les mains pigmentées comme des peintures primitives parcourues de belles veines bleues, violacées, n'acceptant plus la prison de la peau et l'ourlant de vagues rosées. Carole aimait ses mains. Il lui était même arrivé de les effleurer durant le sommeil de la vieille dame et s'en était senti rassuré. « J'aimerais que mes mains soient comme celles-ci quand je serai vieille », se disait-elle. Elle se levait, éteignait la lumière et fermait doucement la porte. Elle continuait son service emplie d'une force nouvelle, amoindrissant les aspects difficiles de son travail. C'est une nuit comme celle-ci, où Carole lui tenait la main et lisait à voix basse que Madame Puriot mourut. Carole sentit les doigts se refermer fortement sur les siens et releva instinctivement la tête. Les yeux fixant un ailleurs indiscernable dans la pièce, la froideur des lieux semblait s'être accentuée, les néons brillaient moins fort. La bouche, légèrement ouverte, offrait des lèvres devenues d'un rose extrêmement pâle. La poitrine soulevée semblait ne jamais vouloir redescendre. Carole laissa tomber le livre et se leva précipitamment. La main la retint comme une ultime invitation à continuer la lecture. L'infirmière se rassit, observant le sang refluer des bras et des mains. La Camarde venait de fermer les écluses du cœur. L'espace sembla soudain se distendre, le lit s'éloignait brusquement, la chambre devenir immense, un bourdonnement se fit entendre. Carole se leva en titubant, ses bras se tendirent vers la porte. Partir, fuir, elle n'en pouvait plus. Une corde en elle avait cassé. Elle ne voulait plus être le dernier témoin des errances humaines. Continuer chaque fois avec le cœur plus lourd, les épaules moins larges, plus seule aussi. Cette mort était de trop. Il lui fallait balayer à jamais cette souffrance. Elle sut exactement ce qu'elle devait faire. Redevenue calme, elle se dirigea vers la sortie de secours, l'escalier métallique extérieur. Carole était restée trop longtemps dans le service. Personne ne peut lui en vouloir. C'est difficile, vous savez, de côtoyer tous les jours des gens et de les voir dépérir. Rien dans les études ne vous prépare à ça, le contact avec la mort. Ici, vous ne pouvez pas détourner les yeux. Et chaque fois qu'il rencontre ceux d'un malade, c'est un peu de vous-même qu'il renvoie. C'est dur. C'est bien pour ça, d'ailleurs, qu'on nous les confie. Carole était trop sensible pour ce service. Cela me fait bizarre de savoir que je ne la reverrai pas. Enfin, là où elle est maintenant, je suis sûr qu'elle est bien. Et pourtant, croyez-moi, une maternité, ce n'est pas de tout repos.
la marée.
Peter avait contemplé le flot incessant des réfugiés, affluant vers la base comme une marée, soulevant un nuage de poussière et emplissant l'air du vacarme assourdissant de leurs pas. Des milliers de personnes qui avaient confiance en eux et venaient se placer sous leur protection, grossissaient les rangs déjà compacts des hommes, des femmes, des enfants, entassés à l'intérieur du périmètre de sécurité. Ne leur avait-on pas promis une protection totale, absolue ? Vous ne craignez rien, nous sommes là pour assurer votre défense et aucun mal ne pourra vous être fait. Il avait regardé l'étendue des baraquements et des tentes entourées d'un grillage, et par-delà, la ville désertée, en ruine. Il avait repensé à sa propre arrivée. Au premier coup de feu, il avait couru. Ils avaient tous couru, jetant des regards affolés sur les collines avoisinantes, à la recherche vaine de tireurs embusqués. L'un d'entre eux s'était effondré, frappé à la tête par un éclat de mortier. Quel gâchis ! Le casque bleu avait été soufflé par l'impact et projeté dans un fossé. Tout le monde hurlait de peur, les civils comme les soldats. Ils avaient cru facile de jouer aux héros, loin du front. Combien de temps avait-il attendu les avions ? 3, 4 jours ? Pendant toutes ces heures, les batteries positionnées sur les crêtes alentour n'avaient pas cessé de bombarder la ville. Peter se souvenait avec précision des mots employés par son colonel. Une envie de vomir lui remonta des entrailles. Les menteurs. Aucun avion n'était apparu dans le ciel. Leur état-major les avait laissés tomber, avec des promesses intenables, des blindés sans essence et plus de 30 000 réfugiés. Le camarade blessé était mort et 30 autres avaient été faits prisonniers au cours d'une patrouille. Une atmosphère lourde d'angoisse régnait sur le camp. Ils s'étaient crus des soldats et se découvraient simplement humains, terrifiés à l'idée de se faire tuer. Dehors, une foule de visages désespérés les guettait, attendant de chacun d'eux qu'ils se sacrifient. Peter aurait donné n'importe quoi pour ne pas être là, avec la certitude de mourir bientôt, loin de son pays, pour un peuple dans lequel il ne se reconnaissait pas. Enfin, un matin, les canons s'étaient tus. Une partie du bataillon s'était alors rendue aux avant-postes. De là, ils avaient vu une colonne de soldats et de chars quittant les bois et avançant sur la route, droit devant eux. Aucun ordre n'avait été donné pour s'opposer à l'entrée des troupes nationalistes dans la ville. Au contraire, les officiers avaient clairement fait entendre que ceux de leurs hommes qui s'aviseraient de résister auraient à répondre du sort réservé à leurs camarades faits prisonniers. L'officier nationaliste commandant l'opération avait fait venir leur colonel. Celui-ci était apparu blanc comme un linge, semblant à peine tenir sur ses jambes. « Un lapin pris au piège », avait alors pensé Peter. « Vous êtes sur le sol de notre chère patrie, et vous êtes vaincu. Vous avez fait votre devoir, et nous respectons cela. Les civils de cette ville sont maintenant sous notre autorité. Vous n'êtes donc plus concernés. Nous allons relâcher les prisonniers, et quand votre gouvernement nous aura dédommagés, nous vous ouvrirons un couloir de sécurité jusqu'à notre frontière. » L'attente complice avait alors commencé. Tout le bataillon était cantonné dans la base. Les civils avaient reçu l'ordre de quitter le camp militaire et de se rendre. Peter et ses camarades auraient voulu se sentir soulagés, mais comment l'être devant ces hommes terrifiés et ces femmes suppliant à genoux en portant leurs nourrissons à bout de bras ? En se rendant à la cantine, Peter avait été abordé par une femme âgée, en larmes. Elle s'était accrochée à son uniforme en criant « Ils viennent de tuer mon mari ! Je vous en prie, aidez-moi ! Ils ont tué mon mari, là, derrière ce baraquement !» Peter s'était entendu répondre avec calme et conviction « Cela ne se peut pas. Vous vous trompez. Ne vous inquiétez pas, tout va très bien se passer. » Lâche. Il avait été lâche. Comme la femme le retenait, il l'avait repoussé brutalement. Il l'aurait frappé, plutôt que de l'entendre plus longtemps. Depuis, il se réveillait toutes les nuits en sentant la main de la femme sur son bras. Elle était là, couchée à ses côtés, et le regardait en suppliant « Aidez-moi !» Il hurlait. Il n'avait pas pu accepter de croire que les nationalistes exécutaient des gens là, sous ses yeux, à l'intérieur même du camp militaire, dans cette ville dont ils avaient prétendu assurer la protection. Il s'était enfui vers la cantine. Il connaissait maintenant la vérité. Plus de 7000 hommes musulmans abattus dans la ville et ses environs, et 24000 femmes déportées dans des autocars dont l'essence avait été payée par l'ONU. Peter vida son verre de bière et se leva dans un état d'ivresse qui ne devait rien à l'alcool. Il paya et sortit sous les regards amusés des derniers consommateurs. Il tourna le dos au port et à la mer pour prendre résolument la direction de la grande route. Son gros sac de toile kaki était lourd, mais son dégoût de lui-même pesait bien plus. Il repensa aux propos tenus par son colonel au retour de la force d'interposition. L'opération militaire menée contre nos troupes était un brillant exemple de stratégie et de tactique. Elle a été très bien conduite et nous n'avons pas à rougir d'avoir dû capituler. Le camion freina. Ses pneus crissèrent faiblement sur la chaussée, projetant quelques graviers sur les bas-côtés. Le chauffeur ouvrit la portière. Peter saisit la poignée et se hissa dans la cabine. Le camionneur démarra sans rien dire. Les phares éclairaient la nuit devant eux et les peupliers prenaient l'aspect d'une colonne de soldats en déroute.
Un beau jour pour naître, pour Arthur.
Il fait gris. Il ne pleut pas, mais il fait gris. Mois de juillet pourri. Je reviens d'une semaine de vacances à la montagne, pas pu mettre le nez dehors. Il pleut de plus en plus dans ce pays. Il ne gèle plus, alors forcément, il pleut. C'est dû au réchauffement de la planète, paraît-il. Un réchauffement. Ça ne peut pas être complètement désagréable. Nos ancêtres ont bien survécu à l'époque glaciaire avec une technologie inférieure. Bien sûr, ça va faire monter le niveau des océans. New York va être submergée. Bon, et alors? J'ai plus de regrets en pensant à Venise ou à la Mauritanie. La Mauritanie. Cette grande plage de sable où meurent les derniers nomades. Mourir de faim sur une terre condamnée à disparaître sous les eaux. Je rejette cette pensée sombre. Pas question d'être malheureux. Pas maintenant. C'est la vie qui me pousse vers toi. L'amour aussi, car l'amitié est encore une manière d'amour, comme a dit Cocteau. Je marche vite, à grandes enjambées. Les gens ont l'air tristes, mais je les trouve beaux. Ils sont habillés en noir et blanc, mais aujourd'hui, je vois tout en couleur. J'ai envie de les arrêter, de les saisir par la manche pour les faire tournoyer sur eux-mêmes, de danser avec eux. Allez, quoi? La vie est belle. Qu'est-ce qui ne va pas? Une fin de mois difficile? Un collègue vous emmerde? Votre patron? Allez, c'est pas grave. On peut parler librement, chanter, penser, rire, et même se battre s'il le faut. Tiens, moi, je me mets en grève.
en grève d'idées noires. Halte au désespoir! La vie est belle, et si la mort triomphe toujours au bout, c'est pas une raison pour lui faciliter la tâche. Faut la foutre au chômage, la camarde. Je me sens une de ses formes. Je voudrais déjà être auprès de toi. Je maudis le travail qui m'a obligé à attendre la fin de l'après-midi pour te rejoindre. J'ai une histoire à te raconter, un secret à partager. Mais patience. D'abord, changer de ligne de métro, prendre la 3 pour descendre à Parmentier. Quelle chance quand on y pense. Naître à deux pas de la République entre Voltaire et Jaurès. Voilà une belle promesse d'avenir. La vie est comme la liberté, sans cesse menacée, alors il faut la défendre sans trêve, il faut la protéger. Ça y est, j'arrive enfin. Le temps ne semble pas vouloir accorder d'éclaircies, tant pis pour lui. La grande porte d'entrée s'écarte. Je reconnais le hall, l'accueil, les machines à café et les ascenseurs métallisés. Je suis déjà venu ici il y a plusieurs années. Le ciel était aussi gris, je crois. Dans mon esprit, tout a gardé les couleurs de l'hiver. Dans cette clinique où tu as choisi d'accoucher, j'ai rendu ma dernière visite à ma grand-mère, emporté sa dernière image, entendu ses derniers mots que je garde en dedans de moi. La seule de mes grands-parents à avoir attendu que je grandisse avant de disparaître. Je voulais te dire cela. C'est si important pour moi. Je reste planté là. Une infirmière m'interroge. Vous êtes malade ?
Malade ? J'ai l'air malade ?
Non, et celle que je viens voir n'est pas malade non plus. On m'arrête au seuil de ta porte, me priant d'attendre. Tu es en train de lui donner une de ses toutes premières tétées. Moi, dans le couloir, je me dis que mon histoire attendra aussi. Ce n'est pas le moment. Tu m'appelles enfin. Je peux entrer. Tu es là, assise, tout à la fois radieuse et fatiguée, et tu le tiens dans les bras, une main sous sa nuque fragile. Dans ma carcasse, tout mon être bondit de joie. Par la fenêtre, j'aperçois le ciel flirter avec le bleu. Tout va bien. C'est peut-être l'été, c'est sûrement le printemps. Une belle journée pour vivre de toute façon. Un cycle s'est achevé.
Elle est née ma divine, petit nez grenadine, petit nez grenadine. Tout le sang dégouline, tout le sang dégouline. C'est la vie qui veut ça, c'est la vie qui veut ça. La maman souffle et pousse, la maman souffle et pousse. C'est un bien qui fait mal, c'est un bien qui fait mal. Femme sage, je vous aime, femme sage, je vous aime. La vie est un combat, la vie est un combat. On voit une tache noire, on voit une tache noire dans le feu du volcan, dans le feu du volcan. Quand le ciel se déchire, quand le ciel se déchirera, qui sera là, qui sera là? On voit une flamme rouge, on voit une flamme rouge. Le mystère va claquer, le mystère va claquer. Mon Dieu, cette cascade, mon Dieu, cette cascade. Un enfant tout entier, un enfant tout entier. Oh, nos rires et tes larmes, oh, nos rires et tes larmes. Dans le bain baptisé, dans le bain baptisé. Si la vie les caresse, si la vie les caresse, naissance est au sommet, naissance est au sommet.
Voilà, vous venez d'entendre les paroles et musiques de Philippe Forcioli qui interprétait sa composition « Un beau jour pour naître » en conclusion des lectures que nous a offert Pascal de Rudre de son extrait, enfin de quelques nouvelles de son ouvrage « Le chemin des fins ». Il nous reste quelques minutes pour dire quelques petites choses. D'abord, comment on peut se procurer cet ouvrage aujourd'hui ?
Eh bien, écoute, auprès de moi déjà, tout simplement. Donc, en m'envoyant un mail sur l'adresse Pascalou, P-A-S-C-A-L-O-U, underscore itou, donc I-T-O-U, donc Pascalou underscore itou, @hotmail.com. Et puis aux éditions Bérénice, tout simplement. Donc les éditions Bérénice, le mieux c'est de leur écrire au 11 rue de la Glacière, 75013 Paris. 11 rue de la Glacière, 75013 Paris. Ou de leur téléphoner au 01 47 07 28 27. 01 47 07 28 27. Vous pouvez aussi aller, et je vous le conseille, visiter leur blog, ce qui vous permettra de découvrir toutes les autres publications. Donc c'est edition.berenice.over-blog.com. edition.berenice.over-blog.com. Et puis, il y en a aussi à la FNAC. Donc là, il suffit d'aller sur www.fnac.com et puis de taper dans les livres Chemin des fins et vous allez aussi en trouver. Le livre coûte 10 euros. Les frais de port sont d'1,20 €. Donc, par exemple, auprès de moi, il suffit simplement de m'envoyer un mail en me disant pour l'exemplaire. Et puis, moi, par le mail, j'envoie l'adresse pour recevoir le courrier, etc. Donc voilà, pascalou_itou@hotmail.com.
Et puis, voilà. Prévu de parler d'autres choses un peu plus longuement. On va devoir le faire très brièvement. Bon, tout d'abord, je te remercie énormément d'avoir bien voulu accepter cette invitation. Tu nous as fait passer un très bon moment. J'en attendais pas moins. C'est à la hauteur. Tu prépares une pièce autour du William Reich?
Alors, effectivement, j'ai écrit une pièce de théâtre qui va être publiée prochainement chez l'Harmattan, dans leur collection théâtrale. Donc c'est quelque chose qui va se faire, je pense, d'ici un mois et demi. Enfin voilà, là on est vraiment en train de boucler, la mise en page est faite, etc. Donc là c'est vraiment une question de... On est voilà sur l'affaire de un mois et demi à trois mois maximum. Donc ça s'appelle La chaise de Wilhelm. C'est une pièce de théâtre autour du psychanalyste Wilhelm Reich, autour de sa vie et de son œuvre, mais surtout autour de l'être humain, beaucoup moins que le militant. C'est-à-dire, il est en prison, je l'imagine en prison où il a terminé sa vie, et en fait, il reçoit la visite de ses fantômes, ses amours, ses détracteurs, voilà, et il se montre et se défend, il se montre à eux et se défend aussi d'eux. Voilà, voilà, c'est la prochaine publication à venir.
Bien, peut-être, on pourra peut-être envisager le temps venu de faire une lecture de cette pièce ici même, qui sait, ou d'extrait.
Mais écoute, avec grand plaisir, je sais que là on n'a pas le temps, sinon ça aurait été avec plaisir que je t'aurais fait entendre la première scène.
Tu peux toujours nous lire quelques phrases.
Ah, pour vous donner le ton alors.
Oui.
Bon. Donc voilà, il est en prison, il est donc seul sur scène, et comme seul décor, il y a une chaise. Mais là c'est... Pourquoi me prendre mes lacets? Que craignent-ils que j'en fasse? La cravate passe encore. Et puis je n'en avais pas quand ils sont venus me chercher. Peut-être qu'ils s'imaginent que je vais me pendre, les crétins. J'aime la vie. J'ai consacré la mienne à comprendre les mécanismes qui la broient, l'emprisonnent, lui interdisent de s'exprimer. Alors me tuer? Quelle bêtise! Tous les êtres vivants s'obstinent malgré l'adversité à prendre racine, à naître, à s'épanouir, à perpétuer la vie. Chaque particule porte en elle tout l'univers. Ah, Freud, maître, je ne suis pas d'accord, tu t'es trompé. Seule existe la putain de vie, seule existe la pulsion de vie. L'instinct de mort est le résultat de la répression de la vie par la société. Comment, conscient de cela, pourrais-je avoir l'intention de me tuer ? Non, s'ils veulent me faire disparaître, ils devront le faire eux-mêmes. Je ne leur ferai pas ce plaisir. Je ne leur faciliterai pas la tâche. Rendez-moi mes lacets ! Thank you.
Thank you.